Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Exactement, 12h35, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission d'En jase avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte et Antonine Iaccarini. Pour nous joindre, vous le savez, vous l'avez fait en grand nombre avec notre dernière discussion sur la rentrée parlementaire, 418-971-1021. Vous pouvez également nous suivre via twitch.tv/BLVD/FM. On est disponible sur l'application BLVD 102.1 et la web radio BLVD FM. Avant d'aller rejoindre la ministre de la Famille et responsable de la région de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain, Mathias, deux petites manchettes, qu'est-ce qu'on a à retenir?
Oui, j'ai pas le choix de vous reparler de l'opération policière massive qu'il y a eu partout au Québec. On parle de 200 policiers qui ont été déployés partout dans la province pour 13 arrestations au total des femmes et des hommes âgés de 18 à 51 ans. L'opération qui était menée, qui était orchestrée par le SPVQ. Donc, sur les 200 policiers, on avait 100 policiers du SPVQ. On avait également les villes de Longueuil, Laval et la province de l'Ontario qui étaient impliquées dans les différentes arrestations. Ces arrestations-là sont liées au meurtre de Jennifer Fortin, meurtre qui a eu lieu en décembre 2024. C'était un meurtre qui avait été effectué par erreur. On visait plutôt son fils, Jeffrey Morin, un homme lié à la Blood Family Mafia. Donc, énorme opération policière. 6 personnes comparaîtront cet après-midi au Palais de justice de Québec. Je vous parle également de Claude Villeneuve qui a annoncé ce matin qu'il allait s'attaquer au corridor Vivacité. Donc, il est cyclable à travers la ville de Québec. Claude Villeneuve qui indique que s'il est élu maire, justement, il n'hésitera pas à analyser les différents corridors et en retirer en cas de besoin. On cible surtout pour l'instant les aménagements sur Père-Lelièvre, Marie de l'Incarnation, Boulevard Saint-Anne et Chemin de la Canardière. Du côté de Villeneuve, on dit qu'on n'est pas nécessairement convaincu des données présentées par l'administration Marchand.
Antonine, pour introduire notre prochaine invitée, parle-moi un peu de la journée de la réconciliation.
Oui, journée nationale vérité et réconciliation. Si vous vous demandez peut-être aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui portent du orange ou qui ont la petite épinglette avec un petit chandail orange attaché à leur chemisier ou à leur veston, c'est que c'est une journée aujourd'hui qui vise à commémorer et non célébrer. Hein, parce que j'entends déjà qui célèbre la journée. Ce qu'on commémore, c'est l'histoire tragique et les séquelles des pensionnats autochtones à travers le pays. C'est une page sombre de notre histoire. Hein. C'est pas très glorieux.
Vraiment.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les pensionnats? Énormément d'impact sur des tonnes d'enfants et de parents autochtones à travers le pays. Et c'était une des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation d'avoir une journée de commémoration. Donc, c'est ce qu'on commémore aujourd'hui.
On est très content de vivre cette journée-là et de reconnaître justement les Premières Nations. Et pour en parler avec nous, on a Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la Côte-Nord, députée de Duplessis, mais surtout la première ministre qui provient des Premières Nations à être nommée au Conseil des ministres. Madame Champagne-Jourdain, merci pour votre disponibilité aujourd'hui.
Coué-coué, bonjour à vous tous, à tous vos auditeurs aussi.
Madame Jourdain, en tant que membre justement des Premières Nations, comment on se sent cette journée de la réconciliation?
Mais c'est toujours une journée qui est chargée en émotions. Chargée parce qu'on se souvient d'un passage de notre histoire qui est moins reluisant. On a tous, en tant qu'Autochtones, des membres de notre famille qui ont fréquenté les pensionnats. Pour ma part, c'est mon père qui a fréquenté les pensionnats. Et on a le devoir de se rappeler que on ne veut plus que les choses se passent comme ça. Et sur une note plus positive, c'est aussi une journée pour se rapprocher, pour aller à la rencontre de l'autre. Et il y a plusieurs activités qui sont organisées aux quatre coins du Québec. J'invite les gens à participer. Ils sont les bienvenus. On voit beaucoup de marches dans les communautés, mais ce ne sont pas des marches ou des activités seulement destinées aux Autochtones. La réconciliation, le rapprochement, ça se fait ensemble.
Vous parliez d'être sur une note positive. J'ai envie de continuer un peu dans cette voie-là. On constate, moi je trouve que ce qui a beaucoup avancé dans les dernières années, c'est la présence maintenant de modèles autochtones tellement positifs, inspirants dans toutes sortes de sphères de notre société. Vous êtes la première femme autochtone ministre au Québec. Est-ce qu'on vous en parle? Quand vous allez sur le terrain, quand vous parlez avec des jeunes autochtones, pensez-vous que ça a un impact, ce que vous représentez? Le sentez-vous cet impact-là autour de vous?
Absolument, absolument. C'est très important qu'on soit représenté à tous les niveaux, qu'on sorte aussi de nos communautés. Plusieurs gens œuvrent dans nos communautés, que ce soit en culture, en éducation, en santé, en politique, en administration. Mais c'est important aussi de sortir, de s'impliquer à l'extérieur. On le fait, on le voit à différents niveaux, que ce soit au niveau, à mon niveau en politique provinciale, on le voit aussi au fédéral. Alors, c'est très important de le faire parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir avoir une chance ou la chance de pouvoir s'exprimer, d'apporter aussi ce qu'on a apporté comme autochtones, parce qu'on a des choses à apporter. C'est ça que les jeunes aussi réalisent quand ils voient des modèles briser des plafonds de verre, aller là où jusqu'auparavant il n'y avait pas d'autochtones qui étaient allés. Moi, ça m'est arrivé souvent d'être la première dans tel milieu, dans tel conseil d'administration, à tel niveau. Je ne cherche pas les premières, mais ça donne. Alors, c'est dire que il y a de la place encore. Les jeunes, ça leur permet de croire, de se projeter aussi dans le futur. Et je dois vous dire que nos aînés, je reçois aussi beaucoup de félicitations et de témoignages de fierté de la part de nos aînés qui ont connu des moments beaucoup plus difficiles, l'instauration du système de réserve, des pensionnats, et qui nous voient maintenant devenir des leaders et qui sont profondément touchés, qui ont confiance en nous pour changer les choses.
Et vous, quand vous étiez jeune, c'était qui vos modèles?
Moi, j'ai... écoutez, premièrement, ma famille proche, vous savez, moi, j'ai un père qui a fréquenté les pensionnats, qui a choisi, lui, que ça s'arrêtait à lui et qu'il ne transmettait pas de trauma. Alors, ça a été ma grande chance d'être encouragée par un père qui me disait que je pouvais faire ce que je voulais tant que j'y mettais les efforts et le travail nécessaires, que je pouvais aller où est-ce que je voulais, qui peu importe quels étaient mes buts, que tout était possible pour moi. Ma grand-mère aussi, Inou, est un personnage marquant dans ma vie. Elle est née en 1906, elle est décédée à 102 ans. Elle avait eu la chance d'avoir une éducation, de pouvoir aussi lire la musique. Elle a été la première femme à traduire les lettres, à faire de la correspondance pour la communauté de Ouachat-Maliotenam. Quand il y a eu création de la communauté, elle faisait la correspondance avec le gouvernement fédéral à ce moment-là. Et elle a toujours prôné l'éducation comme un moyen d'avancer pour les communautés autochtones et d'être capable de se définir dans le futur.
Madame Champagne-Jourdain, on félicite vraiment pour votre parcours très, très, très impressionnant. Pour rappel, on est en discussion avec Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, première députée de nationalité autochtone à accéder au Conseil des ministres. Dans votre rôle au ministère de la Famille, quelles sont vos priorités pour la prochaine année? Et est-ce que dans vos priorités, là, il y a les demandes des réfugiés là, de pouvoir accéder justement à nos garderies, là, c'est-à-dire à nos CPE?
Ben écoutez, c'est sûr que dans les derniers jours, on a pris connaissance de tous les dossiers. J'ai commencé aussi à rencontrer tous les acteurs clés de mon réseau. C'est extrêmement important pour être connecté puis s'assurer qu'on continue de prendre les bonnes décisions. Il y aura certainement beaucoup de déplacements en région à prévoir dans les prochains jours parce que on a beaucoup livré dans les dernières années. C'est plus de 30 000 places qui ont été créées jusqu'à maintenant, 14 000 en voie de le devenir. Alors, il y a beaucoup d'inauguration de pelletées qui vont continuer à se faire, mais il y a aussi les dossiers qu'on doit travailler et pour continuer de travailler. Et vous l'avez bien dit, celui-là va nous occuper, celui-là des réfugiés, effectivement, des demandeurs d'asile. On va devoir adresser ça. Je me familiarise avec tout ça. Et moi, je veux certainement voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Je reviens aux régions parce que c'est extrêmement important. On a donné un grand coup dans le centre du Québec pour être capable de se sortir la tête de l'eau, comme je dis. Là, on revient à un retour là de places disponibles qu'on pourrait reprendre et revoir comment on peut soutenir d'autres régions où les besoins sont encore criants. Ça va faire partie de nos priorités. Et on a une transformation aussi qui s'en vient, un une transformation là au niveau là, de ma place 05. Donc, on va s'assurer que tout se passe très bien. Ça va occuper une partie de notre automne aussi.
Transformation numérique, hein, justement. Faites bien attention, Mme Champagne-Jourdain, parce que les projets numériques au gouvernement, c'est pas toujours facile. On vous souhaite que ça se passe mieux que dans certains autres ministères ou organismes. Vous l'avez dit, vous avez inauguré beaucoup de places depuis les dernières années, mais il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui attendent une place. On en a combien là, sur la liste d'attente pour avoir une place en service de garde?
Actuellement, on est à environ 30 000 enfants.
Donc, vous avez un gros défi, là, encore.
On a créé 30 000 places au cours des trois dernières années. Comme je le disais, il y en a encore 14 000 actuellement qui s'en viennent. On a aussi des projets de conversion de places aussi qui vont se faire. Alors, on va continuer de travailler pour répondre aux besoins. Il y avait beaucoup de rattrapage à faire. C'est ce que ma prédécesseure s'est affairée à faire, à livrer, et on veut être là pour soutenir les familles. Au niveau de la transformation, je vous dis de rester à l'affût au courant des prochaines semaines. Il y aura beaucoup de communication pour s'assurer que tout se passe bien, et ce qu'on veut, c'est que ce soit un succès. Alors, tout est mis en branle pour que ce le soit.
Bon, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'on comprenne bien, on parle de cette liste d'attente pour les services de garde là, qui va être transformée, qui va être rendue, selon les dires du gouvernement, plus efficace. Il y a des déficits importants en ce moment. On verra à la mise à jour économique, on en est à combien. Mais est-ce que, par exemple, on sait qu'il y a une vaste initiative pour couper dans les dépenses, un peu partout dans les ministères. Madame Duranceau est responsable d'aller chercher des sous un peu partout. Est-ce que vous pourriez, pour faire votre part là, dans ce vaste exercice, touché aux tarifs de garderie. Les libéraux avaient modulé le tarif pour les places en garderie subventionnée. Est-ce que ça pourrait être une voie que vous empruntez aussi?
Bien, écoutez, comme je vous le disais, là, on est vraiment dans la prise de connaissance de tous les dossiers, ce qui va certainement guider nos actions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est les priorités commises de l'avant, M. Legault, dont il va reparler cet après-midi. Vous savez, économie, portefeuille pour les Québécois. On veut retourner de l'argent dans le portefeuille des Québécois. L'efficacité aussi de l'État. L'efficacité, c'est bien que ce soit plus simple de faire affaire avec l'État. La sécurité, c'est un enjeu qui est important aussi. On veut que les gens se sentent en sécurité au Québec. On a l'habitude d'être en sécurité et on veut que ça demeure le cas. Et il y aura aussi toute la question d'identité québécoise qui va certainement guider nos actions.
Avec le recul et en terminant, Mme Champagne-Jourdain, est-ce qu'on aurait dû se concentrer sur les services de garde, les CPE, plutôt que de créer des places en maternelle 4 ans? Ça aurait été bien au niveau budgétaire et je crois qu'on aurait plus de places en garderie à ce moment-là.
Bien, vous savez, je pense qu'on a beaucoup livré. Le but, c'était de répondre à la demande. Au courant des trois derniers gouvernements qui ont été là avant nous, ont pratiquement pas créé de place.
Oui, mais en tout respect, nous, il reste quand même 30 000 personnes sur la liste d'attente à l'heure actuelle. Donc, quand vous dites on a beaucoup livré, j'ai certains doutes.
Vous savez, c'est en créant des places qu'on répond aux besoins. On en a converti aussi. C'est environ 44 000 places là, qu'on aura livrées, une fois les 14 000 places livrées. Et en parallèle de ça, on va continuer de voir à répondre. Bien, on va continuer de répondre aux besoins des milliers, des différents milieux. Il y a des efforts supplémentaires à faire dans certaines régions pour s'assurer que ces régions-là demeurent attractives, s'assurer de la vitalité de ces régions-là. C'est à ça qu'on va s'affairer. Le travail continue. On avait un immense rattrapage à faire. Le grand chantier a été lancé. On livre et on va continuer de le faire. C'est comme ça qu'on va répondre aux besoins parce qu'on veut s'assurer que les enfants, chaque enfant ait une place.
Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de Côte-Nord et députée de Duplessis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce midi.
Merci beaucoup pour votre invitation, Yamé, et j'invite tout le monde là à pouvoir participer à des activités de rapprochement aujourd'hui, mais aussi au courant des prochains jours.
Merci beaucoup. Passez une agréable journée et une bonne rentrée parlementaire.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. C'était Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille, pour la Coalition Avenir Québec. De la CAQ, on saute immédiatement au Parti libéral du Québec et on va rejoindre non plus le chef par intérim, mais le porte-parole en santé.